VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de La Haye, la procureure de la CPI a requis ce mercredi au minimum 25 ans de prison contre l'ancien vice-président de la RDC Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable le 21 mars de 5 chefs d'inculpation de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par sa milice en 2002 et 2003 en Centrafrique. Verdict de culpabilité rendu au terme d'un procès ouvert en novembre 2010 et en vertu du principe de la responsabilité du commandant. Même si Jean-Pierre Bemba ne dirigeait pas personnellement ses troupes sur le terrain en RCA. Les juges décideront de la peine à une date ultérieure. L'ONU indique avoir recensé depuis le début de l'année 44 accusations d'abus sexuels qui auraient été commis par ses casques bleus, dont 29 concernant sa mission en RCA, la MINUSCA. Parmi une série de mesures proposées pour mettre fin à cette situation, l'ONU a recommandé la création de cours martiales in situ, donc sur place, pour juger les coupables, et aussi de prendre les empreintes génétiques des casques bleus. Pour l'instant, seule l'Afrique du Sud a annoncé qu'elle allait mettre en place une cour martiale en RDC pour juger ses casques bleus. Par ailleurs, l'ONU a aussi créé en mars un fonds pour aider les victimes de ces abus sexuels. La Norvège a été le premier pays à y contribuer en versant $125,000. Au Tchad, le mouvement citoyen IYINA, qui s'est donné pour mission de combattre l'injustice et la malgouvernance, a tenu une conférence de presse mardi à N'Djamena pour dénoncer l'arrestation de ses membres à Mundu, dans le sud du pays. Timothée Donangmaya joint dans la capitale tchadienne le rapporteur du groupe Ganje Solo Bertrand.
Les autorités judiciaires lui ont fait comprendre que l'étudiant était pris en flagrant délit dans ces manifestations et qui sont deux, donc il faut que la justice fasse son travail. Mais ce que nous ne comprenons pas, comment un étudiant qui n'est pas l'organisateur d'un mouvement puisse se retrouver dans leur collimateur. Pour nous, simplement, c'est un règlement de compte. Parce que les membres de l'INA étaient déjà traqués par le service de renseignement et par plusieurs fois, ils l'ont appelé pour l'intimider. Donc, nous ne comprenons pas leur motif.
Ganje Solo Bertrand, rapporteur du mouvement citoyen IINA, joint à N'Djamena. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la tenue d'une réunion de son comité d'urgence demain 19 mai sur la fièvre jaune en Afrique, qui a fait près de 300 morts depuis fin décembre, notamment en Angola. Plus de détails avec Michel Joseph.
Des experts vont examiner la situation et faire des recommandations. Ce comité pourra aussi décider si l'épidémie de fièvre jaune est une urgence de santé publique, comme pour Ebola ou Zika. Depuis fin décembre, 293 décès ont été signalés en Angola, de même que 696 cas confirmés et 2267 cas suspects. Luanda reste l'épicentre de l'épidémie. La République démocratique du Congo voisine compte 41 cas confirmés, dont 2 locaux et le reste importés. L'Ouganda a détecté 7 cas confirmés et, selon l'OMS, 2 cas importés au Kenya et 11 en Chine.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, mise en garde du gouvernement aujourd'hui aux membres des syndicats qui souhaitent maintenir l'ordre de grève générale contre la hausse du prix de l'essence, malgré l'injonction de la justice hier prohibant l'arrêt de travail. Babachir David Lawal, secrétaire général du gouvernement fédéral, a exhorté tous les travailleurs à respecter la loi et à renoncer à participer à une grève illégale. Les actes d'intimidation, de harcèlement, comme le blocage des bâtiments, la fermeture forcée des bureaux et les barrages sur les routes pour empêcher les travailleurs de remplir leurs devoirs civiques recevront une réponse appropriée de la part des autorités, a averti Babachir David Lawal. Rappelons que la Cour industrielle nationale saisie par le ministre nigérian de la Justice a temporairement interdit aux syndicats de lancer la grève générale. Et toujours au Nigeria, pour la première fois, une des 219 lycéennes enlevées en 2014 par la secte islamiste Boko Haram à Chibok dans le nord-est du pays a été retrouvée saine et sauve. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Tsam Dibo Osea Abana, un des responsables à Chibok du mouvement Bring Back Our Girls, ramener nos filles. La jeune fille a été découverte dans la forêt de Sambisa, dans l'état de Borno, qui passe pour un des derniers bastions de Boko Haram.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, attaque armée dans la nuit de mardi à mercredi contre commissariat de police dans la région de Djibo, dans l'extrême nord du pays. Les combats ont opposé les forces de sécurité burkinabé à des assaillants lourdement armés. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
L'attaque a eu lieu à Koutougou, dans la province de Soum, une région aux frontières du Niger et du Mali. Une source sécuritaire jointe par VOA Afrique affirme que des renforts ont été envoyés dans la zone pour contrer ces assaillants, dont on ne connaît pas l'identité. La même source a indiqué ne pas savoir s'il s'agit des terroristes ou des bandits armés. Aucun bilan n'est encore disponible. Cette partie du Burkina est une zone de forte instabilité. C'est là qu'en mi-janvier, un couple australien, le docteur Kent Elliott et sa femme, avaient été enlevés précisément à Djibo, la grande ville de cette région. Madame Elliott avait été libérée quelques jours plus tard au Niger, mais Dr Kent est toujours entre les mains de ses ravisseurs, en l'occurrence des hommes de l'Émirat du Sahara, une branche d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, agissant dans le nord du Mali.
La ministre ivoirienne de la cohésion sociale, Maria Toukoné, se dit confiante quant au retour définitif de 11 000 exilés pro-Gbagbo installés au Ghana depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Les précisions de Jacques Aristide.
D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de deux tiers des 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont déjà rentrés chez eux. La ministre Koné a reconnu que de nombreux exilés ont exigé, notamment lors de manifestations, des garanties sécuritaires avant d'être rapatriés, citant le cas de certaines personnes qui ont été arrêtées à leur retour au pays malgré les promesses du gouvernement. Le retour des réfugiés est un enjeu majeur pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du gouvernement d'Alassane Ouattara après la fin de la crise provoquée par le refus de l'ex-président Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival.
En Guinée, la semaine du numérique a été lancée mardi à l'occasion de la Journée internationale des télécommunications. L'initiative vise à promouvoir les nouvelles technologies comme levier d'action pour un développement durable. Pour en parler, John Lyndon a joint Mustapha Mami Daibi, ministre guinéen des télécommunications et de l'économie numérique.
Une semaine de numérique en Guinée pour sensibiliser les différents acteurs de l'écosystème sur les opportunités, mais également les défis liés au développement de l'écosystème au service des différents secteurs de production. Et ce qui est prévu, il est prévu une série de conférences, des hackathons et des séances d'initiation des jeunes à l'encodage informatique.
Alors, qui dit numérique dit au minimum ordinateur ou tablette. Est-ce que le Guinéen moyen a les possibilités de s'approprier ces outils informatiques?
Aujourd'hui, au-delà de l'informatique ou de l'ordinateur, ce que nous voyons aujourd'hui en termes de taux de pénétration des téléphones, des smartphones, c'est qu'il y a un taux de pénétration considérable. Et la réduction du coût d'acquisition des ordinateurs fait aussi qu'il y a aujourd'hui une tendance positive quant à l'appropriation de ces outils par l'ensemble des couches socioprofessionnelles.
Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour que le développement à travers les nouvelles technologies soit facilité, surtout en termes de communication et d'accès à Internet?
La première chose qu'un gouvernement fait, c'est s'assurer d'un cadre légal et réglementaire en place, et que ce cadre légal et réglementaire soit attrayant, qui permette à l'innovation d'avoir lieu, qui permette à l'investissement et bien entendu, créer des conditions favorables à l'investissement, à l'épanouissement des investisseurs privés et créer la confiance pour promouvoir les usages et protéger les usagers.
Alors, vous êtes ministre des Télécommunications. Quels sont les défis auxquels fait face votre ministère aujourd'hui?
Au-delà de notre ministère, les défis auxquels font face l'ensemble des secteurs c'est d'abord un défi relatif aux infrastructures. Nous sommes en train de construire les infrastructures large bande. Nous sommes en train de promouvoir le développement des applications et des contenus locaux. Et nous sommes en train également de voir comment améliorer le système d'enseignement et l'orienter vers les applications TIC.
Alors, vous parlez d'enseignement. Est-ce que vous remarquez que les jeunes s'intéressent ou non à l'apprentissage justement des nouvelles technologies?
Beaucoup. Beaucoup de jeunes aujourd'hui s'orientent vers les filières de technologie de l'information et de la communication.
Mustapha Mami Diaby, ministre guinéen des télécommunications et de l'économie numérique. Et pour terminer la campagne électorale ici aux États-Unis, la candidate démocrate à la Maison-Blanche Hillary Clinton a obtenu une victoire de justesse hier à la primaire du Kentucky, mais son rival Bernie Sanders, victorieux dans l'Oregon, a promis de rester dans la course à l'investiture jusqu'à la fin de la saison des primaires. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.